RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 à RFI avec Frédéric Rivière. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevons Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Hubert Védrine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez, je cite votre dernier livre, Compte à rebours, comment conjurer les menaces. C'est aux éditions Fayard. Bien sûr, on va en parler, mais avant, je vous propose de parler de l'actualité et de l'Italie qui inquiète l'Europe après l'alliance du mouvement 5 étoiles et la Ligue, le parti d'extrême droite italienne. En clair, le mariage d'une coalition eurosceptique, anti-système et xénophobe. L'Italie a connu le fascisme. Politiquement, ses gouvernements ont toujours été instables. Aujourd'hui, le pays passe au populisme. Alors, avant de détailler la situation italienne, je vous connais un peu et je sais que vous n'aimez pas les mots valise. Par exemple, l'expression « la communauté internationale », pour vous, ça veut absolument rien dire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot populisme est un peu mis à toutes les sauces. Donc, j'aimerais avoir votre définition, dans le fond, du populisme aujourd'hui. Ça veut dire quoi ?
C'est pas que j'aime pas ces mots, c'est que quand on les emploie, on sait pas trop de quoi on parle et du coup, la conversation est vaseuse, quoi. Ouais. Donc, vous avez raison de poser la question sur le populisme. J'en voulais plaisanter. On dirait que là où il n'y a pas de peuple, il n'y a aucun risque de populisme. Vous voyez, à Monaco, Qatar, tout ça, pas de risque particulier. Dès qu'il y a un peuple, il se peut que le peuple ne vote pas comme les élites voudraient qu'il vote. C'est à ce moment-là qu'on parle de populisme. En fait, oui. Que les élites ou les gens qui ont accès à la parole publique, dont vous faites partie, aussi bien les médias que les intellectuels, les gouvernants, etc. Donc le populisme, c'est le peuple qui vote mal. Voilà. Ça, c'est l'interprétation en biais, oblique, ironique. Plus précisément, on peut constater que au sein de l'Occident, et au sein de l'Europe en particulier, on a vu ces dernières années un décrochage du vote populaire sur la mondialisation. Les gens ont cessé de croire que la mondialisation était automatiquement bonne pour eux, même aux États-Unis, sinon Trump n'aurait pas été élu.
Absolument.
Et qu'en Europe, les classes populaires ont décroché de l'idée européenne progressivement. Et même les classes moyennes. Et aujourd'hui, en Europe, vous avez quasiment plus aucun pays dans lequel les pro-européens classiques, je ne parle même pas des fédéralistes, intégrationnistes qui n'existent pas électoralement, ils existent dans les journaux, dans les think tanks, mais pas en vrai comme force politique.
Et les élites sont fautives de cela ?
Oui, une responsabilité, bien sûr, disons, du discours européen trop arrogant. En tout cas, si on prend les pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droit, il n'y a même plus tellement de pays en Europe où ils soient majoritaires. Je suis même pas sûr qu'il y en a encore.
En France, Emmanuel Macron a fait très largement sa campagne sur l'Europe, en faveur de l'Europe. Il faisait applaudir l'Europe pendant ses meetings.
Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il a été élu grâce à ça ou est-ce que ça ne l'a pas empêché d'être élu pour barrer la route à Marine Le Pen ? Il y a deux interprétations possibles. Et là, je finis. À l'autre bout du spectre, vous avez des vrais anti-européens. Il ne faut pas appeler sceptiques parce que les sceptiques, c'est tous les autres.
Ouais, donc
les vrais anti-européens.
Europhobes,
voilà, c'est ça. Les europhobes, c'est l'extrême gauche, l'extrême droite. Après, vous avez plein de gens devenus sceptiques. Ouais. C'est important parce qu'à mon avis, ils peuvent redevenir peut-être pro-européens. Vous avez les gens devenus sceptiques, les allergiques à la réglementation à outrance.
Les Britanniques, vous les mettez dans quel...
C'est un mouvement anti-européen qui a gagné. C'est pas simplement sceptique. Sceptiques, ils disent on n'est pas contre, mais ça nous plaît pas, on critique. La plupart des peuples européens sont eurosceptiques aujourd'hui. Et ils n'ont pas envie de sortir. Ils n'ont pas envie de se mettre dans le même chaos que les Britanniques. Donc ça fait tout un éventail. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la majorité... Il peut y avoir des alliances inattendues. Ça serait une sorte d'alliance Mélenchon-Le Pen ici, vous voyez.
Oui.
Alliance inattendue, comme en Italie, alors que c'était l'un des pays les plus ardemment.
Oui, les plus europhiles.
Européistes même. Vraiment très convaincu. Un peu pour, par honte du passé, mussolinien, enfin des choses comme ça, vous voyez.
Donc,
vous voyez.
Dans
quel état on est aujourd'hui? C'est pour ça que la priorité absolue pour la poursuite du projet européen, c'est de récupérer le soutien des peuples. Pas les vrais anti-européens idéologiques qui bougeront pas, mais l'ensemble des autres. Sont déchus, énervés, tout ça, mais qu'on peut retrouver si on leur parle autrement. je crois.
Vous n'aimez pas les mots valises, vous n'aimez sans doute pas non plus les expressions.
Bah,
les expressions toutes. Non, mais j'ai bien compris.
Il faut préciser, voilà, quoi.
Ils sont confus. Vous n'aimez sans doute pas non plus les expressions toutes faites.
Par exemple,
l'Italie, laboratoire politique de l'Union européenne. Ça veut dire quelque chose ou pas ça? Parce que ça y est, on le voit partout.
Non, mais je sais bien, vous connaissez votre métier mieux que moi. C'est l'obligation de parler vite ou alors de parler tous les jours.
Non, mais est-ce que d'une manière générale, laboratoire de produits en Italie annonce ce qui va se produire ailleurs dans les années qui suivent?
Ben non, si on dit ça, on comprend rien à toute l'histoire de la France depuis la Ve République. Oui. Rien de ce qui s'est passé en France était annoncé par quoi que ce soit en Italie.
Donc cette expression n'a aucun sens et aucun intérêt.
Aucun.
Non, mais comme ça, son sort est fait, voilà.
Aucun. C'est bien. Et quand, à l'époque, d'autrefois, où il y avait des grands partis communistes, le parti communiste italien de Berlinguer était quand même extrêmement différent de la plupart des autres. Ça n'a jamais influencé le bon vieux parti communiste français stalinien dans sa tête, vous voyez.
Alors,
non, c'est pas une expression pertinente pour analyser ce qui se passe aujourd'hui, puis en plus on ne le souhaite pas. Mais en plus c'est pas vrai, je crois.
Alors maintenant qu'on a votre définition du populisme, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est aussi l'échec, le populisme c'est l'échec des élites.
Ben oui.
Si allons plus loin.
Mieux pris. C'est pas normal qu'il y ait un tel rejet de la mondialisation et de la construction européenne. Ce serait pas étonnant qu'il y ait 15 à 20% d'opposants à tout ça, qui sont mécontents, etc. Mais les chiffres actuels, ça montre vraiment qu'il y a un échec des mondialisateurs, hein, parce que la mondialisation n'est pas tombée du ciel, c'est pas que l'invention du portable. Il y a les mondialisateurs et les mondialisés. Dans la construction européenne, il y a des gens qui ont poussé à l'intégration tout le temps, et d'autres qui ont dit il faut s'y prendre autrement. Donc il y a une sorte d'échec à convaincre. Je vous dis, il devrait y avoir 15 à 20% de gens hostiles ou critiques, et les autres plutôt favorables.
Pas seulement convaincre, c'est...
Entraîner.
Oui.
Vous avez raison.
Oui.
Entraîner. Donc là, c'est quoi l'erreur? C'est une vision, un ton peut-être trop arrogant. Trop arrogant qu'on a vu à chaque grande campagne électorale, chaque référendum, etc. Rappelez-vous de la tonalité de la campagne au moment de Maastricht, ou en 2005. Donc il y a le fait de... Moi je me rappelle très bien, vous savez, j'étais secrétaire général de l'Élysée au moment de Maastricht. On démarre avec des arguments niant classiques, que l'Europe c'est la paix, l'avenir, la jeunesse, et tous ceux qui sont contre sont des crétins archaïques, souverainistes, lepénistes. Ça c'était la tonalité générale, mais pas que du gouvernement, qui faisait des lâchers de ballons, tout comme ça, mais l'ensemble des commentateurs. Et les analyses très fines que me montrait Jacques Pilan, notre spécialiste génial de l'époque, c'est que plus on parlait comme ça, et plus le nom montait.
Et les gens disaient, mais si un référendum, la campagne, oui,
on a le droit de dire oui ou non si c'est un référendum. Hein. Bon, et donc ça faisait monter. Et donc il y a rarement eu chez les pro-européens des gens pour dire vous voulez garder votre identité, on comprend. Mais dans le monde actuel, c'est plus compliqué qu'avant. Mais ce n'est pas méprisable comme demande. Vous voulez garder une certaine souveraineté, ce n'est pas ridicule. Mais voyez comment on va faire. C'était balayé avec mépris.
Mais là,
donc,
par exemple,
c'est une responsabilité historique et qu'il faut maintenant dépasser ça.
Cette forme d'arrogance dont vous parlez, est-ce qu'elle n'est pas à l'œuvre quand Bruno Le Maire sermonne en quelque sorte l'Italie en disant attention, votre avenir, il est en Europe, il est nulle part ailleurs. Vous avez entendu la réaction de Matteo Salvini, le patron de l'Italie, qui a dit mêlez-vous de ce qui vous regarde.
Oui, sauf que l'Italie est entremêlée, il y a des liens, il y a des obligations, il y a une monnaie commune, il y a plein de trucs.
Oui, mais il dit moi j'ai été élu pour que ça change, pas pour faire comme avant.
Oui, oui, oui. Mais le maire, dans ce rôle, il peut pas dire, c'est une bonne nouvelle, bonne chance, les gars. C'est plus compliqué, par rapport à ça. Non, c'est pas ça, l'arrogance.
Il faudrait pas être plus mesuré dans la réaction?
Non. En général, il faut être mesuré quand on fait des déclarations qui sont pas suivies des faits.
Mais de quoi? L'Europe s'inquiète, mais est-ce qu'elle a des raisons, alors? Économiquement,
Mais quelle Europe? Ça dépend qui c'est, encore une fois.
Voilà, non, mais on voit aujourd'hui que, bon, l'Italie, fait des propositions quand même parfois aberrantes.
Ils ont un programme, ils annoncent un programme qui est naturellement complètement incompatible avec les engagements européens pris par l'Italie. Alors soit ils vont se dégager de ces engagements et puis advienne que pourra, ou alors ils vont entrer dans une espèce de bras de fer beaucoup plus violent que la tension qui existe entre les institutions européennes et la Pologne ou la Hongrie. Parce que ça va pas toucher simplement à un discours sur les valeurs, ça va toucher aux intérêts.
Donc en clair,
l'aventure n'est pas du tout évidente. C'est pas anormal que les autres disent c'est incohérent. C'est incohérent avec vos propres engagements. Donc ils renvoient la balle au nouveau gouvernement italien quand il sera installé pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait. Est-ce qu'ils vont faire comme les Grecs? Les Grecs ont démarré comme ça, puis ils ont fait volte-face.
Mmh. Alors, dans le fond, la France est stable dans tout cela, parce que l'Allemagne, elle a toujours pas envie de payer, encore moins. On voit bien que Merkel a le pied sur le frein. Donc, est-ce que du coup, la France va être, et Emmanuel Macron, être d'autant plus le leader d'une Europe un peu à la dérive, on va dire?
Le système européen n'est pas fait pour qu'il s'y exerce un leadership. C'est quand même un système très compliqué. Alors, il y a eu des moments, en effet, mais dans une Europe plus petite, peut-être plus facile à entraîner. L'exemple typique, c'est Mitterrand, Kohl, nommant ensemble Delors, donc après à 3. Donc, il y a eu un moment particulier d'une Europe qui était encore à 12. Vous voyez ? Dans le système européen actuel, leadership, c'est pas évident. Mais on voit bien que par défaut, si on compare aux autres et aux autres situations, la France se porte bien, et la France a un président dont l'élection a énormément impressionné en Europe et ailleurs.
Et qui veut une relance de l'Europe.
Alors, il veut une relance de l'Europe avec une combinaison qui est intéressante à observer, parce que c'est un européiste philosophique convaincu, et qui combine cette position de départ avec l'idée de l'Europe qui protège. C'est un autre thème, ça. C'est pas la même chose. Et l'Europe qui protège, l'avenir du concept se joue beaucoup sur Schengen, vous voyez. Est-ce que Schengen peut marcher ou pas? Puis après, il y a l'Europe des projets. Parce qu'il essaie, à partir de sa base très pro-européenne, sa position à lui, d'élargir son impact en France. Jusqu'à là, ça marche assez bien en France. Les autres pays, non. Il n'y a aucun autre pays qui soit prêt à aller plus loin dans la voie de l'intégration, au sens classique. Par contre, il y a une demande confuse, mais pas complètement traitée encore, sur la maîtrise des flux migratoires. Et c'est vrai que la France est le seul pays où il peut se passer quelque chose qui peut avoir un effet d'entraînement, même si c'est pas du leadership classique.
Mais vous disiez aujourd'hui que parmi les peuples européens, il y en a une majorité qui sont sceptiques ou désenchantés finalement par rapport à l'Union européenne. Est-ce que vous avez l'impression, quand on évoque la réforme de l'Union européenne que souhaite Emmanuel Macron, qu'elle répond aux attentes des citoyens, qu'elle fait rêver? Est-ce que vraiment les Français peuvent s'enthousiasmer à l'idée qu'il y ait un budget de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro? Vous croyez que ça va donner le sourire et ça va réenchanter l'Europe, ça?
Rappelez-vous qu'elle n'a jamais été enchantée, l'Europe.
Non, mais elle a été porteuse d'espoir, parce qu'elle s'est formée quand même très tôt après la guerre. Donc argument, c'est de dire qu'elle a amené la paix.
Bon. Non, c'est l'Alliance Atlantique, c'est les Américains et les Soviétiques qui ont fait la paix en Europe, c'est pas l'Europe. L'Europe a profité de la paix, intelligemment, elle l'a remplacée, elle a complété une paix froide par une construction européenne originale et intelligente, mais c'est pas l'Europe qui a fait la paix, par un point simple. Bon, ensuite, il n'y a pas eu de manifestation.
L'Europe s'est construite parce que...
Grâce à la paix.
Absolument.
Mais ils ont voulu donner un vrai contenu à la paix organique en allant plus loin. Après, il n'y a jamais eu de manif en Europe pour demander en plus d'Europe. Jamais, nulle part. Et le traité de Rome a été très discuté en France en 1957, sur le marché commun. La plupart des forces économiques françaises pensaient qu'on allait se faire avoir là-dedans. Ça ne marcherait pas. Donc il n'y a jamais eu d'enthousiasme, à aucun moment. Donc on ne va pas retrouver l'enthousiasme. Ouais. C'était des petits groupes qui voyaient loin, qui avaient une vision... pas forcément partagée par les peuples, mais intelligente, originale, et une vraie vision, qui ont réussi à influencer les gouvernements, c'est démocratique, puisque ça a toujours été ratifié à chaque étape. Mais depuis que l'Europe s'est élargie, et depuis qu'on est entré dans la phase où les décisions européennes impactent la vie concrète des gens, on est obligé de faire ratifier, c'est la décision de Mitterrand au moment de Maastricht, mais après la décision des autres, on peut plus avancer comme ça, parce qu'il y a une sorte d'avant-garde qui sait ce qui est bon pour les autres. Ouais. Et depuis qu'on est dans cette phase...
Elle était moins invasive autrefois, l'Europe, dans la vie quotidienne, c'est ça?
Et d'ailleurs, Juncker le dit lui-même, le président de la Commission, c'est lui qui parle de réglementation à outrance. Il dit, on a eu tort de développer des réglementations qui perturbent la vie des gens. Donc depuis qu'on est dans la phase où il faut l'approbation des peuples, quasiment au jour le jour, c'est plus compliqué quand même. Ça fait 15-20 ans. Donc on peut pas simplement retrouver les espérances sympathiques du début. Faut trouver, il y a un pacte à faire entre les élites dirigeantes et les peuples. Sur les points que j'ai cités, identité, souveraineté, sécurité.
Alors, d'ailleurs, vous le soulevez dans votre livre sur comment conjurer les menaces, c'est aussi l'immigration. Et on le voit...
Je dis pas exactement l'immigration est une menace.
Non, absolument pas. Mais vous dites il va falloir gérer les flux migratoires. Voilà. Flux migratoires, absolument. Mais pour revenir à l'Italie, parce que aujourd'hui, si on a cette situation, c'est sans doute aussi à cause de cette immigration, ces flux migratoires. L'Italie a été esselée dans ce problème-là.
Mais elle est en première ligne, c'est géographique.
Bien sûr.
Pour la Grèce et l'Italie, ils sont en première ligne.
Bien sûr.
Et après, il y a un système européen, convention de Dublin, etc. qui fait que c'est à eux de s'en occuper en priorité. Et comme on n'a pas distingué suffisamment tôt, il y a longtemps, les vrais demandeurs d'asile, les gens qui sont en danger, qui sont persécutés, ouais. que l'Europe devrait accueillir plus largement, plus généreusement, à condition que ce soit des vrais demandeurs d'asile. Comme on ne les a pas distingués de la maîtrise des flux migratoires économiques, comme ni l'extrême droite ni l'extrême gauche n'ont intérêt à distinguer, pour des raisons opposées mais qui se rejoignent, on a une sorte de méli-mélo et les gens, les opinions publiques en Europe se sentent globalement envahis. Plus la question de l'islamisme, donc du terrorisme, etc., etc. Tout se mélange. Donc la réponse absolument vitale, avant de remettre sur le tapis d'autres propositions européennes dans d'autres domaines, c'est de démontrer aux opinions européennes qu'on maîtrise ces flux.
Ce n'est pas le cas du tout.
C'est le cas en partie, c'est beaucoup moins mal que ce qu'on raconte, mais ça se voit pas bien, et puis c'est des avancées de briques et de broc, et puis tout est bloqué par un pays qui prend les autres en otage, etc. Bon, je pense qu'on a besoin d'un vrai bond en avant par rapport à ça, pour que les opinions se calment un peu. Alors quand je dis les flux migratoires, c'est il faut les co-gérer. Il faudrait une fois par an, avec les pays de départ, genre Afrique de l'Ouest, et puis transit, genre Maghreb, mais il y en a d'autres, se faire une rencontre, et on déciderait quels sont les quotas d'immigration légale souhaités par métier, hein, pour un saint. Les gens verraient ça. Ils diraient, bon, c'est pas suffisant, mais enfin, quand même, c'est mieux. Et là, à partir de là, on pourrait être moralement, et sur le plan humain, beaucoup plus exigeants, au sens de les vrais réfugiés, les gens en danger, etc. Si on arrive à faire ça, petit à petit, la pression retombe un peu, y compris le populisme qui se nourrit de la... Le populisme, c'est juste la mesure de l'échec des élites.
Mais c'est aussi aux dirigeants africains de retenir aussi leur...
Oui, ils sont partagés, parce qu'ils n'ont pas du tout intérêt... avoir partir les jeunes les mieux. Hein. C'est des gens formidables, ceux qui partent en général. C'est une sorte d'auto-entrepreneur, on dirait aujourd'hui.
Oui, mais est-ce qu'ils ne laissent pas passer justement ceux dont ils ne veulent plus? Cette jeunesse qui pose des problèmes, on l'a vu dans certains pays africains.
Bien sûr, donc ils ferment les yeux sur le fait qu'ils partent. Absolument. Ça. Mais à terme, c'est dommage, parce que c'est les gens dont ils ont besoin pour développer leur pays. Mais toutes ces questions, si on fait un jour la réunion annuelle dont je parle, là, il y aura des explications de gravure assez terribles, au début. Les premières fois, parce que chacun va reprocher plein de choses aux autres. C'est pour ça qu'il faut co-gérer. Et nous, on va dire, on peut pas tout prendre, mais on a des besoins. Et on peut accueillir des gens si on est capable de les traiter correctement et qu'ils trouvent un travail dans des conditions correctes.
Mais
bon, et puis après, il faut inventer des systèmes particuliers pour les étudiants, les hommes d'affaires, etc. etc. Et c'est vrai, vous avez raison, il faut impliquer les dirigeants africains qui, certains d'entre eux le souhaitent, ils vont demander des contreparties, mais ça, c'est une négociation utile. Et on ne parle pas de l'asile, hein.
Non, on est d'accord, de absolument, de l'immigration économique.
La Côte d'Ivoire et ses voisins, c'est le même sujet. Hein. L'Afrique du Sud et ses voisins, c'est pareil. L'Australie, c'est le même sujet. États-Unis, c'est une question mondiale.
On approche...
Si l'Europe arrive à gérer les flux, elle peut être un modèle pour d'autres.
On approche lentement mais sûrement de la fin de la première partie de l'émission. Est-ce que vous diriez, Hubert Védrine, que on se dirige d'une manière plus ou moins inexorable vers un retour des nations au sein de l'Europe et que l'Union européenne va devoir se désengager, en quelque sorte, restituer une partie de leur souveraineté aux nations et pour pouvoir continuer à vivre?
Les nations n'ont jamais disparu. En fait,
elles ont été un peu en arrière tout de même, non?
Bah, c'est le discours qui considérait qu'elles étaient supplantées, qu'elles étaient dépassées.
Vous avez dit vous-même que l'Europe a été très invasive, qu'elle s'est impliquée.
Je citais le président de la Commission, Juncker. Donc c'est vrai que c'est tout le monde, on a cru que ça allait être périmé. Mais c'est pas vrai, la Cour de Karlsruhe en Allemagne a toujours veillé de façon très rigoureuse à ce que les intérêts allemands ne soient pas mis en danger par les progrès de l'intégration. Ça n'a jamais vraiment disparu. Les Allemands sont aussi allemands qu'il y a 30 ans, peut-être plus. Les Finlandais sont toujours finlandais, etc. Il y a une phrase de De Gaulle, mais qui donne pas de perspective d'avenir, mais qui est marrante. Il disait, on fait pas d'omelette avec des œufs durs. Les œufs durs, c'était les nations d'Europe. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la façon dont se sont créés les États-Unis. Ça n'a rien à voir. Rien, rien, rien. Donc, c'est simplement la réalité qui revient. Et on peut pas se borner à ce bilan, à ce constat. Parce que les nations européennes, même si elles gardent une identité forte chacune, s'engager dans une aventure collective et ont un destin commun, et c'est ça qu'il faut organiser mieux, face à la Chine, la Russie, face aux flux migratoires, etc., etc. Donc on n'a pas besoin de prétendre fusionner les peuples européens, qui ne veulent pas d'ailleurs, les amalgamer dans je ne sais pas quoi, pour avoir des positions globales fortes. Il faut peut-être dissocier les deux choses. Il y a un immense champ de progrès à faire.
Il y a quelqu'un qui le porte aujourd'hui, ça, en Europe?
Si quelqu'un peut le porter, c'est le président français, à travers sa synthèse entre l'ambition très européenne et l'Europe qui protège. C'est là où ça se joue, en fait. Alors que tous les autres sont le nez sur le guidon, quand même. Hein. On le voit bien.
Allez, on va en rester là pour la première partie de cette émission.
On parlera des États-Unis.
Voilà, on va parler des États-Unis, de l'Iran. On se retrouve dans quelques instants après un point sur l'actualité. À tout de suite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière sur France 24 et RFI, notre invité Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous êtes auteur du livre Compte à rebours, comment conjurer les menaces aux éditions Fayard. Donc avant de parler des États-Unis et du populisme aux États-Unis, puisqu'on vient de parler de l'Italie, dites-nous quelles sont ces menaces et pourquoi un compte à rebours?
J'ai voulu attirer l'attention dans le texte de 40 pages inédit qui précède ce recueil sur le fait qu'il y a plusieurs phénomènes en même temps avec des interactions énormes qui sont en arrière-plan du désordre géopolitique qu'on constate tous les jours, qui sont le compte à rebours écologique, pas que le climat, l'ensemble, hein.
Ouais.
Climat, biodiversité, fonds marins, forêts, etc. Et la vie sur Terre est impossible à quelques générations de distance s'il n'y a pas une correction absolument majeure par écologisation systématique de tout en réponse. Il y a le compte à rebours écologique, il y a le compte à rebours démographique, qui nous concerne énormément, parce que même si tous les pays du monde, même l'Afrique, font la transition démographique, on parle tout le temps, c'est-à-dire que les femmes font plus 10 enfants, mais 2 ou 3, c'est dans 30 ou 40 ans dans une partie de l'Afrique. Et nous, on est juste à côté. Donc il y a un problème de gestion de ça. Et le monde se développe à toute vitesse, alors que les Européens vont rester stables. Donc là, il y a un vrai problème. Chacun des problèmes est plus compliqué pour les Européens que pour les autres. Après, il y a l'incertitude numérique, et on ne sait pas si le choc est destructeur ou créateur. Il y a beaucoup de choses en même temps, alors qu'au jour le jour, on s'est
dit... Et pourquoi on s'arrête sur le numérique? Ça tombe de quel côté? Pile ou face?
Et
le mauvais côté?
On ne sait pas encore. Ouais. Parce que ça peut aboutir à des tas de progrès en médecine, en ceci, en cela... Et en matière de décision publique dont on a bien besoin quand même pour gérer les autres phénomènes que j'ai cités, c'est un système horizontal qui corrode tous les systèmes verticaux. Donc il peut y avoir également un processus qui alimente la revendication de démocratie permanente, directe, voire instantanée. Donc en fait, régime d'opinion, pour pas dire dictature d'opinion.
Ouais.
On pourrait nous demander tous les matins sur le portable si on est pour ou contre le rétablissement de la peine de mort. C'est techniquement possible. Voyez. Donc le système numérique, donc la démocratie numérisée,
le big data empire
horizontal, est quand même aux antipodes de la décision réformatrice, du courage politique. C'est un peu compliqué. Donc tout ça en même temps.
Ouais.
Voilà. Donc j'essaie de réfléchir sur
quelle est la plus brûlante,
le mélange de tout ça.
La plus brûlante de ces menaces.
La plus brûlante, vous trouverez toujours une crise géopolitique qui est pas dans la liste que j'ai faite.
Non. Mais parmi celles que vous venez d'énumérer, entre la démographie,
elle s'emboîte en fait.
Oui, j'ai bien compris que tout était
la plus
indiqué,
grave.
Mais la plus urgente, la plus brûlante.
La plus grave, même si elle est pas urgente pour demain matin, c'est la question écologique. Parce que c'est pas la question de la planète qui se fiche de nous, de la planète. C'est la vie sur la planète. Et ça, même si ça aboutit que dans 10, 20, 30 ans, qu'on est tout écologisé, ça démarre dans la minute qui suit. Donc c'est vraiment un arrière-fond, et je sais bien que les gens, même quand ils sont préoccupés par l'Italie, par Trump, par l'Iran, entendent qu'il y a ce tic-tac en permanence, et qu'il faut s'en occuper aussi.
Alors, justement, vous parliez des États-Unis, donc Donald Trump qui met ses promesses en application en cassant les accords commerciaux, en déchirant l'accord sur le nucléaire, bon, l'accord de Paris, bien évidemment, c'est plus vieux, donc l'accord sur le nucléaire. Est-il en train de naître en Europe, comme aux États-Unis, un nouvel ordre populiste mondial? C'est-à-dire qu'il met fin à cet ordre libéral de 45 qu'on a connu.
Il
n'y
a aucun ordre.
Il n'y en avait pas un après 45?
Si, il y a une organisation du monde par les Américains qui a été d'ailleurs remarquable après 45.
Oui.
Sauf la partie qui était dominée par l'Union soviétique. Et en gros, on a vécu là-dessus, puisque quand la Chine est passée au capitalisme Far West, à partir de Deng Xiaoping, et quand l'URSS s'est effondrée, c'était une sorte de ralliement de ces puissances anciennement communistes au système, disons, mondial imaginé par les Américains après 45. Sauf que là, on voit que c'est plus compliqué, que les Occidentaux n'ont plus la maîtrise complète du système par rapport à ça, que la Chine définit petit à petit une sorte d'autre système, même s'ils n'ont pas forcément l'ambition de tout contrôler. Bref, même le secrétaire général des Nations Unies, qui est un ami et un homme optimiste, M. Guterres, dit le monde est chaotique. Chaotique. Donc il n'y a pas d'ordre avant, il n'y a pas d'ordre maintenant. En revanche, vous avez un système ouvert dans lequel il y a plein d'entités, publiques ou privées, légales ou pas, qui poussent leurs pions. Donc ils se disent, voilà, on va en profiter pour faire ceci, cela. Et Trump est la caricature de ça, mais il n'est pas unique. Caricature. Parce qu'il le fait sans aucun masque.
Oui.
Il prétend pas être quand même, je fais ça pour un monde meilleur. Le monde meilleur, il s'en fiche.
Oui, le monde meilleur, c'est les États-Unis.
C'est son électorat. Il y a une grande partie des États-Unis que Trump déteste et qui eux-mêmes haïssent Trump. Bon. Mais c'est son électorat. C'est typique dans les affaires du Proche-Orient avec la position des évangélistes, etc. Bon. Et donc, la grande différence entre Trump et les autres, qui avait un langage peut-être hypocrite, mais il avait un langage sur la communauté internationale, etc., c'est de dire, je m'en fiche de tout ça. Je fais que ce qui me plaît. Et il a gardé quand même c'est plus exactement l'hyperpuissance dont je parlais dans la décennie 90, mais enfin, il a quand même une capacité de faire des faits accomplis qui s'imposent à une grande partie du monde. Mais pas sur le climat. Sur le climat, il a pris sa décision absurde, et le monde entier a dit, c'est des conneries, nous on continue. Oui. Même aux États-Unis.
Oui.
Beaucoup de villes, ça. L'Iran, il peut casser l'accord.
Oui, mais cependant, les autres signataires disent, nous on continue. Mais la question est de savoir si ça peut fonctionner.
Ils ont raison de dire, on continue, parce que c'est une façon de refuser le diktat, le fait accompli, et puis cette politique, qui est une politique de blocus, en fait, de l'Iran. Parce qu'ils vont au-delà même de la logique de sanctions.
Ils veulent renverser le régime.
Oui, oui.
C'est ça l'objectif.
L'objectif de Trump. Ouais.
Et là, il y a plusieurs lobbies qui vont dans ce sens.
Ouais. Mais pour arriver à quel régime
ils s'en fichent. Ils veulent le renverser, ils veulent se venger. Ils ne pardonneront jamais à l'Iran d'avoir renversé le Shah d'Iran, fait la révolution, occupé l'ambassade, etc. Il y a un côté western, là, vous voyez. Impitoyable, la fin. Une vengeance absolue.
Ouais.
Donc ils prennent le contre-pied du raisonnement hyper intelligent d'Obama, peut-être trop intelligent. Consistant à dire, on va jouer les forces modernisatrices dans le régime qui finiront par le transformer tellement que ça sera plus le régime qu'on a connu et donc il sera plus une menace pour les autres. Mais vous avez le lobby, pas forcément israélien, mais en tout cas de la droite israélienne, Likoud et les nationalistes, les Saoudiens, pas mal d'Iraniens des États-Unis, de Californie, les fameux évangélistes dont je vous parlais, enfin, ça fait du monde. Et donc Trump, il voit que ça et il se moque totalement des conséquences. Il pense que le monde devra s'adapter à ses positions. Donc c'est une politique violente, de diktat, de fait accompli, qui est motivée que par de mauvaises considérations.
Et puis qui peut aboutir à quoi ?
Alors ça peut.
In fine.
Alors il y a plusieurs conséquences. Au Moyen-Orient, je ne pense pas que les États-Unis veuillent aller eux-mêmes à la guerre directement. Et Trump n'est pas du tout pour les guerres. Il n'est pas du tout pour imposer la démocratie. Il n'est pas néoconservateur sous cet angle-là, vous voyez.
Ouais.
Il n'est pas isolationniste non plus. Il peut bombarder s'il le faut. Mais il ne va pas y aller directement. En revanche, ça peut encourager les Israéliens et les Saoudiens à trouver un prétexte pour s'en prendre à l'Iran. Peut-être, j'en sais rien, c'est pas sûr, mais je ne peux pas écarter cette hypothèse, même ailleurs qu'en Syrie, vous voyez. Ils peuvent se sentir encouragés, ils peuvent se sentir soutenus par rapport à ça. Mais c'est le cadet des soucis de Trump, ça. Savoir ce que ça va entraîner. Et si ça entraînait la chute du régime avec un chaos peut-être encore pire que ce qu'on a vu en Irak après l'opération de la guerre de 2003... C'est pas son problème. Donc, faut intégrer le fait que vous avez des acteurs dans le monde dont lui est le moins et le plus brutal, le plus cynique, en langage, enfin, au sens moderne.
Oui, pas au sens.
Au sens vrai, philosophique.
Oui, qui est pas dans le mainstream.
Qu'est-ce que peut faire l'Europe face à ça? Parce que finalement, Trump, c'est sur cet accord, il dit moi je le casse, et si je parle crûment, et je vous emmerde.
Oui.
Bon. Qu'est-ce qu'elle peut faire l'Europe? Elle a un moyen, et en effet, de continuer à le faire vivre. Là, Emmanuel Macron va se rendre en Russie à la fin de la semaine, là, jeudi et vendredi, discuter avec Vladimir Poutine. Il sera notamment question de ça. Il y a des moyens aujourd'hui de faire vivre cet accord, malgré la campagne de sanctions inédite, apparemment, dans sa violence, que les États-Unis s'apprêtent à imposer à l'Iran.
C'est quasiment une philosophie de blocus.
Ouais.
Il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, le président Macron a raison d'aller parler avec Poutine.
Bien sûr. On va en reparler.
Oui. C'est politique qui est réaliste. Il faut qu'il parle également avec Poutine et pas que des accords actuels. Mmh. Et quasiment que des griefs. Il faut qu'il pense à long terme aussi. Et je pense qu'il le fera et qu'il lui en parlera. Mmh. Après tout, on aura toujours la Russie comme voisine.
Alors ça, oui, mais on va finir sur les États-Unis.
D'accord. Alors, ok. Quand vous dites que l'Europe, c'est 27 pays. Ouais. Donc est-ce que les 27 pays, est-ce qu'ils sont capables de s'unifier là-dessus? L'Europe n'existe pas si les Européens ne sont pas unis. Unis. N'oubliez pas que la construction européenne n'a jamais été pensée pour fabriquer une Europe puissance. Mmh. Avec à la tête des autorités qui aient des compétences en matière de défense, politique étrangère, etc. Il faut l'accord des pays. Si les pays d'Europe disaient maintenant, vraiment trop c'est trop, on veut bien que les alliés des États-Unis, c'est même notre intérêt, mais c'est pas possible qu'ils prennent des décisions, qu'ils foutent en l'air, ce qui est, on a mis des décennies à construire. S'ils avaient une position ferme en disant ça d'accord, mais ça non, et qu'ils soient capables, par exemple, en Europe, d'adopter des lois extraterritoriales pour punir des entreprises américaines, enfin, tout le système américain qu'on a toléré depuis très longtemps. Au nom de quoi les États-Unis peuvent adopter des lois qui, sous prétexte que les gens utilisent le dollar, vont permettre de punir le monde entier, sauf ceux qui sont que dans l'économie chinoise. Pourquoi on a toléré ça depuis si longtemps? Un des meilleurs rapports là-dessus...
Et pour ça, c'est l'obsession de Trump vis-à-vis de l'Asie.
Oui, mais Trump, il n'a pas inventé ce que je raconte là.
Non, j'entends bien, mais...
Très longtemps, hein.
Mais c'est les années 70.
Et le rapport le plus incisif là-dessus est celui de Pierre Lelouch. Et Karine Berger. Mais Lelouch a été un pro-américain militant pendant très longtemps, en fait. Et il a écrit le rapport le plus courageux sur les abus insupportables de l'unilatéralisme américain. Oui. Donc quand on arrive 10, 20, 30 années après ces pratiques... Un président qui est prêt à renverser l'ensemble du jeu de quilles, qui dit « je fais comme ça », qu'est-ce qu'on fait? Donc, en effet, il faudrait bâtir un morceau de l'économie qui puisse maintenir l'accord avec les Iraniens. Il faut que ce soit des entités, sans doute des PME, plutôt que les grosses entreprises, qui veulent pas aller sur le marché américain, qui font rien en dollars, qui n'ont pas d'Américains, qui échangent jamais un...
Mais évident que ça représente le même volume d'échange, du coup.
C'est pas du tout le même volume, mais le but de ceux qui veulent renverser l'Iran, c'est ça. C'est de faire en sorte que l'Iran ne s'améliore pas, donc que les durs s'en prennent à Rouhani, qui est affaibli, pour pouvoir dire après, vous voyez, c'est des durs qui commandent, on peut rien faire avec eux. Autrement, ils veulent organiser ça pour s'en réclamer après. Donc c'est vraiment une politique du pire. Politique du pire, c'est pas impulsif, c'est souvent... C'est calculé. Alors les Européens doivent essayer de résister à ça. Et ils doivent, si encore ça déclenchait dans leur tête un processus mental de, disons, d'émancipation, c'est-à-dire trop c'est trop, c'est la dernière fois que ça arrive, et jamais plus on laissera les États-Unis nous imposer une politique folle de ce type. Bon, on pourrait se dire c'est frustrant maintenant, mais à moyen terme ça va produire quelque chose. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. C'est ce que disent les déclarations publiques.
Alors justement, je vous propose d'écouter hier le ministre des Affaires étrangères américain, Mark Pompeo, qui a fait un discours musclé en proposant un nouvel accord, évidemment, sur l'accord iranien, mais avec des conditions inatteignables et surtout un ton très menaçant vis-à-vis des Européens. On l'écoute.
Les entreprises qui feront affaire avec l'Iran, alors que nous l'interdisons, seront tenues responsables. Dans les semaines à venir, nous allons envoyer des équipes de spécialistes dans les différents pays du monde pour expliquer notre politique, pour parler des implications liées aux sanctions que nous allons imposer et pour écouter nos partenaires. J'ai passé beaucoup de temps avec nos alliés depuis mon entrée en fonction et je suis conscient qu'ils souhaitent sauver le vieil accord sur le nucléaire avec Téhéran. Mais ça, c'est leur décision. Ils connaissent désormais notre position.
Hubert Védrine, si vous étiez réinstallé...
Au moins, c'est clair. Hein.
Oui, c'est clair. Si vous étiez réinstallé au Quai d'Orsay, vous feriez quoi? Passer un discours pareil?
Non, je ferais comme ce que font les responsables actuels en France et en Europe. Je regarderais ce que l'on peut sauver en vrai de l'accord en misant sur des entreprises qui ne sont pas vulnérables sur le marché américain. Je pense qu'il faut continuer à dire des choses claires et nettes sur le fait que c'est pas acceptable qu'un pays, même les États-Unis, se comporte comme ça. Et je pense qu'il faut déclencher un processus mental dont je parlais il y a 2 minutes. Ouais. Donc la plupart des réponses ne sont pas immédiates, malheureusement, par rapport à ça. Après, il y a la question de savoir, est-ce qu'on peut aller plus loin avec la Russie et la Chine pour faire en sorte de faire vivre l'accord, que ce ne soit pas que la Chine qui tire les marrons du feu. Mais je crois qu'il y a une protestation quand même mentale, politique, philosophique à organiser. Le ton là de Pompeo, dont on dit qu'il est beaucoup moins pire que Bolton, d'ailleurs. Hein. Mm. Les Américains compétents, ils disent Bolton est un vrai fou furieux. Lui, on peut discuter, c'est un nationaliste dur, mais bon, vous voyez le résultat. Ouais. Ça ressemble à la... C'est le ton de l'Angleterre ou de la France au 19e pendant la guerre de l'opium avec la Chine. Mm. C'est quelque part insupportable. Ça contredit, ça ridiculise, ça bafoue tout ce qu'on raconte sur le plan international, la fameuse communauté internationale depuis 1945. Vous rendez compte? Et en plus, ce que ne faisaient pas les puissances coloniales d'autrefois, c'est la prise en otage de l'ensemble des entreprises du système, sauf la partie qui n'est contrôlée et donc protégée que par les Chinois. Donc c'est quand même une régression géante, géante. Même si je ne suis pas, évidemment pas dupe du discours d'avant.
Mais Dominique de Villepin, par exemple, ce matin, ancien ministre des Affaires étrangères, lui aussi ancien Premier ministre, disait « On peut se demander, quand on entend Mike Pompeo parler comme ça à ses alliés, si nous sommes encore vraiment des alliés. » Est-ce que vous iriez jusque-là ?
Je pense qu'il a, il a raison de dire ça. Vous voyez, j'ai réagi sans connaître sa déclaration, ouais. J'ai réagi un peu de la même façon. Moi, j'avais formulé à un moment donné, quand il fallait expliquer la politique Mitterrand, une vieille formule, qui était « Nous sommes amis, alliés, mais pas alignés ». Mmh. Et le problème commençait là. Parce que pour les Américains, même quand ils sont moins brutaux que Pompeo, un allié, il est aligné.
Bien sûr.
C'est son principal intérêt, d'ailleurs.
Oui, on a un peu l'impression d'un instituteur qui chapitre un gamin, là.
Ça, non, c'est beaucoup plus violent que ça.
Oui, enfin, oui.
C'est plus violent. En tout cas, un allié est aligné. Oui. Si on veut des alliés non alignés,
c'est pas un allié, ça.
La conception n'existe pas,
comme un allié,
pour les États-Unis. Ouais. Vous voyez Donc l'idée de, comme l'avait été De Gaulle, d'ailleurs, on est alliés dans les moments clés, les grands moments, les grandes crises majeures, où les intérêts vitaux collectifs sont en... Très bien. Le résultat, on a une liberté de manœuvre. Les États-Unis d'aujourd'hui le refusent. À long terme, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que, d'abord, la politique de Trump par rapport à la Chine est incohérente. Donc, elle ne va pas empêcher la montée de la Chine. Deuxièmement, ça va finir par générer un sentiment de rancœur et de détestation qui, même chez les pays les plus amis, sincèrement, les plus alliés, vont détruire l'acide, les fondamentaux de la relation franco-américaine ou germano-américaine. Donc c'est une politique de la terre brûlée, en quelque sorte. Mais ils sont là pour un temps X. Donc comment on s'organise en tant que temps je dis, faut tenter quand même de faire vivre l'accord, peut-être à travers un deal...
Oui.
Avec les Russes et les Chinois, et alors, après, il faut être prêt à aller au bras ferme. Il faut qu'on se dote en Europe de dispositifs menaçants. Est-ce que les Européens sont prêts à ça ?
Sur quel marché l'Europe pourrait-elle sanctionner les Américains ? Parce que, a priori, là où ils nous sanctionnent, eux, ils n'y vont pas non plus. Donc, c'est ça le problème.
Le marché européen est un marché gigantesque.
Bien entendu, mais enfin, vous diriez aux États-Unis quoi, si vous allez en Roumanie ou si vous allez en Grèce, à quel endroit on pourrait leur interdire un marché sous peine de sanctions ?
Donc vous pensez qu'il ne faut même pas essayer ?
Non, mais je pose la question. Le problème, c'est de trouver les zones sur lesquelles on pourrait appliquer.
J'ai un vieux souvenir, en 82, les États-Unis voulaient sanctionner les entreprises françaises, anglaises, allemandes et italiennes, qui allait faire le gazoduc avec les Russes.
Ouais.
Et l'unanimité à l'époque était tellement forte, il est vrai que c'était le Mutschmidt qui avait une autorité en Allemagne, que les Américains ont reculé. Mm. C'était Reagan. Mm. Reagan, dont on avait fait bêtement un épouvantail, mais qui était en réalité, en dehors du fait qu'il était terriblement sympathique, en fait, c'était un homme très pragmatique. Donc il avait reculé. Là, on a affaire à des idéologues. Et qui n'atteindront pas leurs objectifs par rapport à leur base électorale. Donc Dieu sait ce qu'ils vont faire quand ils vont commencer à voir que ça marche pas.
Un mot, il nous reste peu de temps sur la Russie, puisque Emmanuel Macron se rend à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine. Donc un voyage qui tombe à un moment crucial. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se dire de plus qu'ils ne se sont dit ? Et vous parliez de François Mitterrand, mais des opposants qui sont tués, des journalistes qui sont tués. Est-ce que François Mitterrand, s'il était encore là, aurait pris la parole là-dessus ?
Pendant la guerre froide, il y a beaucoup plus de gens tués. Et beaucoup plus de menaces. Menaces nucléaires, conventionnelles. Les espions ont tué, des paquets. Mmh. Hein. Bon. Même pendant la guerre froide, en tout cas pendant les 30 dernières années, on a inventé la détente. Et pendant la période de la période détente de la guerre froide, il y avait plus de rencontres au sommet que ce n'est le cas aujourd'hui entre la Russie et l'Occident. Plus de discussions. Il y avait des accords de réduction des armements, des négociations. Il y avait des téléphones rouges, etc. On est dans une phase maintenant L'Occident, évidemment, il y a mille choses à reprocher à la Russie, il faut s'en méfier, il faut faire attention.
Il nous reste 30 secondes, donc il va falloir faire appel à votre esprit de synthèse.
Alors, s'il vous plaît. Je pense, je ne sais pas ce qu'il dira, mais je souhaite que le président Macron, naturellement, j'en suis sûr, aborde franchement et directement, façon cash chez son genre, tous les sujets de désaccord et de grief actuels, mais qu'il essaie de tester Poutine sur la relation à long terme.
L'Europe. Avec l'Europe.
Oui, parce qu'il sera toujours voisin de l'Europe. Oui. Donc, quelles sont ses idées à long terme? Quel geste est-il prêt à faire pour le moyen et le long terme pour que l'Europe puisse entrer dans un processus par étapes de désescalade qui produirait des résultats et donc un cycle, le contraire de ce que les Américains imaginent sur l'Iran. Nous, on a le contraire par rapport à la Russie.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Possible,
ça serait... Merci.